Et l'État dans tout ça? La question n'a pas été posée directement, mais je vais en dire deux mots avant de répondre à celle que je dois lire après. La question de l'État dans le cadre d'une société sans argent, on peut la diviser en deux, celle de savoir ce qui lui reste à gérer une fois l'argent aboli, et celle de ce que nous appelons les libertés fondamentales, de la façon dont elles seront encore augmentées, comme on vient de le faire à propos des droits des homosexuels, ou protégés, une protection à laquelle les affaires de racisme, de xénophobie ou blasphème nous rappellent constamment. Je commence par l'argent. L'État moderne gère l'inféodation générale à l'argent. Il a complètement intégré la loi de l'argent. L'argent, puissance impersonnelle, donne à la nécessité d'opérer des profits monétaires l'initiative réelle des lois. Des lois de fait qui assurent l'ordre de l'argent qui n'est rien d'autre que celui de faire des profits monétaires. À ces lois de fait, à l'ordre des profits monétaires, tous les usagers se conforment, ceux qui ont des grosses fortunes, comme les clans de base. Les lois écrites, elles protègent ou améliorent encore les moyens de produire des profits monétaires, ou protègent de leur ravage. Elles protègent ou répriment dans deux directions. Elles protègent et répriment du côté de ceux qui opèrent des profits monétaires, pour qu'ils soient encore plus libres d'en faire, et elles protègent et répriment aussi du côté de ceux qui en sont les victimes, pour qu'ils supportent plus facilement leurs difficultés et ne se mettent pas en travers avec des idées de justice. Faire des profits monétaires, ça ne figure pas dans nos libertés fondamentales, comme la liberté d'opinion par exemple. Mais cette liberté-là, elle est plus jalousement protégée que toutes les autres. Les lobbies du profit monétaire travaillent discrètement à tous les niveaux de l'organisation étatique, les syndicats le font beaucoup plus visiblement sur le thème de leur distribution plus juste. Quoi qu'il en soit, c'est dans le même mouvement, exactement le même, sous la contrainte de faire des profits monétaires, que l'État surveille la santé monétaire de son économie et la santé de son corps social, pour que ses organes et membres salariés ne dépérissent pas ou ne se disputent pas trop entre eux. Il exerce cette surveillance à l'extérieur comme à l'intérieur. La surveillance à l'extérieur, elle se traduit par une diplomatie faite d'entente avec d'autres nations, par l'entretien de forces armées, qui constituent un chapitre important des dépenses publiques, et là encore, les méfaits produits par l'argent, les conflits et les guerres, ça se soigne avec de l'argent. Quant à la surveillance à l'intérieur, elle se traduit par une justice et une police qui répriment les enrichissements illicites, et un corps de travailleurs sociaux, sans uniforme, eux, qui aident les pauvres à joindre les deux bouts, à se dépatouiller pour gagner plus d'argent et croire que les enfants y arriveront mieux qu'eux. Dans la mesure où le rôle de l'État est construit pour faire face à l'obligation d'opérer des profits monétaires, la désargence annonce son dépérissement, au moins sur ce plan-là. Le dépérissement de l'État, comme vous savez, c'est une idée force en honneur aussi bien chez les libertaires que chez les libéraux. Mais je n'ai lu nulle part qu'un libertaire ait jamais pensé proposer pour y parvenir, d'abolir l'argent, ou si c'est le cas, il n'en avait évidemment pas les moyens, jusqu'à l'informatisation des données. Quant aux chefs d'entreprise et partisans du régime dit libéral, ils n'ont toujours pas compris que l'État ne les gêne qu'en relation directe avec les mesures qu'il doit prendre pour compenser les effets négatifs provoqués par les profits monétaires. Quand il prend des mesures qui facilitent les bénéfices, quand il socialise les pertes, il l'aime bien. Nous avons vu tout à l'heure les conséquences de l'abolition de l'argent sur la liberté d'entreprise, la gestion d'habitat, l'éducation. Dans tous les cas, il faut s'attendre à une reprise en charge des problèmes par ceux qui sont directement concernés. Inutile de recourir pour ça à une organisation de type ministériel. Pourquoi se défausser sur l'état des décisions à prendre? Le terrain commande, les possibilités locales, et ce qui s'invente de positif se répand. C'est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui, où on voit les serviteurs de l'État courir derrière la société civile, souvent loin derrière, parce que leur bureau ou l'autorité centrale, dont tout doit procéder, les a empêchés de saisir les choses à temps. Observez le nombre de colloques qui s'organisent un peu partout et en ordre dispersé sur différents sujets, la quantité d'ouvrages qui sont publiés sous la direction d'eux et qui rassemblent des articles et points de vue. L'État lui-même crée des commissions avec des personnalités élues ou non élus, qui viennent de bords différents. Aujourd'hui, Les ministères interviennent pour accorder les crédits et le remue-ménage est donc filtré par l'argent. Mais dans un sociotope sans argent, si les ressources matérielles sont là, vous n'avez plus besoin de demander à l'État des subventions. Les banques de données, elles vous diront tout de suite si l'expérience que vous envisagez elle est faisable. Ce ne sera pas toujours le cas. Et à force de rencontrer le même problème, il faudra donc se prendre par la main pour mieux organiser tout ça, pour expérimenter des dispositifs plus performants. Et il ne manquera certainement pas de volontaires pour y réfléchir, au moins techniquement. Ils feront des ministères ou des bureaux ministériels, à eux tout seuls, pas besoin d'être élus pour ça.